Cette semaine à Fermont, il y a la TROC CDC Côte-Nord, de son long nom, la Table régionale des organismes communautaires et corporations de développement communautaire de la Côte-Nord, à Fermont pour faire des rencontres avec les organismes membres, mais aussi pour présenter à la communauté ce fameux rapport, les résultats préliminaires plutôt de la Commission populaire nord-côtière là, sur l'accès aux soins de santé. Pour nous parler de tout ça, tout d'abord, on reçoit le coordonnateur de la TROC CDC Côte-Nord, Sean Bourdage. Bonjour.
Bonjour, Elisabeth.
Tu es accompagné aujourd'hui de Mireille Boivin, qui est la responsable de la recherche pour la TROC CDC Côte-Nord. Bonjour à toi.
Bonjour.
Ça fait quelques fois là, qu'on se parle depuis les derniers mois, dernière année concernant cette fameuse commission populaire. On va commencer avec ça. C'est important pour la TROC CDC Côte-Nord de venir présenter ça à la population. On s'en est parlé la semaine dernière, donc vous allez présenter ça ce mercredi soir. Vous avez hâte de présenter ça à la population?
Absolument, on a très hâte, puis on a hâte en fait de voir si la population fermontoise se reconnaît en fait dans ce qu'on a isolé des différentes activités de collecte de données des derniers mois. La population ayant des particularités dues au déplacement, notamment en avion, pour avoir accès à beaucoup de soins de santé. Donc, on a vraiment hâte, en fait, d'avoir leur point de vue sur ce qu'on a récolté jusqu'à présent.
C'est ce à quoi sert la soirée aussi, les gens qui ont participé ou peut-être qui n'ont pas participé non plus, mais qui aimeraient apporter une petite nuance par rapport à cette documentation-là, pourraient venir le faire avec vous puis vous ajuster aux besoins également la documentation.
Tout à fait. Bien, c'est vraiment la richesse de ce projet de recherche-là qui s'inspire de la recherche action participative. L'idée, c'est vraiment d'être en dialogue avec la population. Donc, on va refaire ce même exercice-là un peu partout dans les différentes MRC qu'on a sollicitées dans les dernières semaines. Donc, on commence avec Fermont cette semaine.
Et si on peut déjà penser à ce qui se retrouve dans les résultats préliminaires, on connaît quand même beaucoup de nos enjeux. Tu en as nommé un, c'est le transport. En fait, on est quand même dans un lieu assez éloigné. On est isolé également, mis à part qu'on a la route, elle est quand même assez longue. Qu'est-ce qui se retrouve dans les grandes lignes de ce rapport qui en font partie?
Oui, bien, on peut commencer par la question du transport, qui est un grand enjeu thématique qu'on a pu vraiment retrouver dans toutes les MRC pour toutes les populations qu'on a rencontrées. Ça se divise en fait en trois points. Bien, oui, l'étendue du territoire, mais aussi la centralisation de certains soins de santé qu'on retrouve vraiment dans des endroits souvent plus densément peuplés. On pense Sept-Îles, on pense Baie-Comeau. Donc, cette centralisation-là, combinée à l'éloignement qui est très important, bien, fait en sorte que ça peut être vraiment plus difficile, dépendamment de notre code postal, d'accéder à certains soins. Bon, il y a le manque de transport efficace, là, que ce soit dans le transport collectif pour certains milieux, que ce soit dans le transport organisé, par exemple des navettes, des choses comme ça, pour se rendre à des rendez-vous qui pas vraiment optimisé présentement. On a aussi, bon, le coût pour les individus, pour les patients, les patientes, l'organisation aussi, tout le poids qui vient avec ça, de ces déplacements pour se rendre au point de soins. Puis sinon, bon, on a trois autres enjeux qu'on a pu isoler. Donc, la question de l'accompagnement. Je parlais d'organisation tout à l'heure, du transport, mais il y a beaucoup, il y a une grande demande d'accompagnement de la part des cercles rapprochés là, des patients, que ce soit la famille, les amis, la communauté de façon générale, pour permettre aux gens d'accéder aux soins de santé. Puis il y a tout un volet aussi de communication qui semble être très difficile avec le milieu de la santé pour les patients qui souhaitent avoir des suivis, par exemple, sur leur propre rendez-vous, leur propre quête, mais également pour accéder à des soins. Donc, comment est-ce que je fais pour contacter mon CLSC, est-ce que je vais avoir un retour d'appel, à quel endroit est-ce qu'il faut que je m'adresse, très complexe. La fameuse politique de transport des usagers, là, ça nous ramène à la question du transport général, mais cette politique, présentement, elle ne semble pas convenir aux besoins, soit par les très petits coûts qui sont couverts, en fait, là, pour les déplacements en question, mais aussi la complexité administrative, j'ai envie de dire, de la politique. Puis, on a finalement la proximité des soins, la question de la prévention, la proximité d'un point de vue régional. Donc, pour la région, il peut être difficile d'avoir accès à certains soins. Et après ça, plus localement, grande difficulté aussi là, pour certaines MRC à avoir accès à des choses quand même relativement simples, mais aussi ce qu'on va appeler là, des soins de deuxième ligne, donc des soins un petit peu plus spécialisés. Là, on va au-delà, par exemple, du médecin de famille, de l'infirmière praticienne. Puis tout ça, donc ça peut être complexe. Puis ça amène les gens à devoir aussi se déplacer. Donc, on ne déplace pas les soins, on déplace les gens. Ça devient parfois très difficile, coûteux pour les individus. Puis ça amène bien, un stress qui est plus financier, mais aussi, j'ai envie de dire, d'ordre plus psychosocial. Puis finalement, bien, sur la santé des personnes, ça peut avoir une influence aussi parce qu'il y a des gens qui vont refuser certains traitements, qui vont retarder aussi d'aller consulter. Donc, c'est tout ça qui se joue.
Je pense que certaines personnes vont peut-être se reconnaître dans ces différents enjeux que tu viens d'énumérer, Mireille. Ces enjeux-là vont être présentés à la communauté, des enjeux qu'on connaît, mais également des pistes de solutions. Vous aurez l'occasion de le présenter à la communauté, mais le but également de ce document-là, c'est que ce soit pas juste un dossier de critique qu'on a envers notre système de santé, c'est vraiment de pouvoir offrir des solutions concrètes et des idées pour bonifier le tout pour la suite.
Tout à fait. Donc, en fait, il y a 16 pistes de solutions qui ont été formulées avec la population et qu'on va présenter aussi. En fait, c'est peut-être la partie qui nous intéresse le plus. On veut avoir là, le point de vue des gens de Fermont sur ces pistes de solutions-là. Ça reflète, en fait, leurs besoins. Ces pistes de solutions-là sont inspirées des grands enjeux qu'on a énumérés là à l'instant. Donc, on espère que ça saura répondre à certaines préoccupations, puis peut-être aussi qu'on pourra les bonifier avec les Fermontois et les Fermontoises.
Donc, on rappelle l'invitation là, pour la population, c'est ce mercredi 2 septembre de 17h à 19h à la Maison d'aide et d'hébergement qui est située aux 4 rues Howe. Donc, les gens pourront venir à ta rencontre et celle de Sean. Et ça tombe à point, ce rapport-là, puisqu'on tombe, on est tombé en fait en campagne électorale depuis déjà quelques jours. Ça va se l'échelonner jusqu'au début du mois d'octobre. Donc, ça aussi, ça peut servir d'outil. J'imagine que c'est un peu le but également d'aller rencontrer les gens, de pouvoir voir qu'est-ce qui urge également dans les situations sur le terrain?
Tout à fait. Bon, il y a plusieurs sujets d'actualité autour de la question de la santé. Il y a quelques jours, là, on a vu passer un prolongement, en fait, pour tout ce qui était l'autorisation là, du personnel soignant, donc en fly-in, fly-out, des choses comme ça. Donc, c'est un sujet de préoccupation. Puis, on a hâte, en fait, de pouvoir présenter un rapport final à l'automne à de futurs élus. Donc, oui, tout à fait. On est très enthousiastes là, d'entendre les gens dans ce contexte-ci.
Et bien sûr, c'est pas les seuls sujets dont vous êtes venu parler aux gens de Fermont cette semaine. Il y a différents membres, des organismes membres qui sont avec la TROC CDC Côte-Nord. Monsieur Bourdage, justement, comment, qu'est-ce qui fait en sorte que vous venez à Fermont cette semaine? De quoi vous venez parler avec vos membres ici?
Bien, c'est notre quatrième rencontre là, terrain là, à Fermont. Donc, depuis 2022, on essaie de venir au moins une fois rencontrer nos membres. L'année dernière, avec la Commission populaire, on s'est retrouvé ici à d'autres reprises également. Faire le point, d'une part, sur la situation des organismes, où ils en sont au niveau de leur réalité interne. On vient aussi s'informer sur l'actualité socio-économique, communautaire aussi de Fermont. On est aussi en période là, de travail sur notre planification stratégique 2027-2032. Donc, on finit là, la partie 2022-2027. Puis on venait justement faire un bilan avec nos deux membres, là, la Maison des jeunes Alpha et la Maison d'aide et d'hébergement de Fermont, pour jeter un regard sur les cinq dernières années de travail qu'on a fait ensemble, puis voir là, par la suite comment on va se projeter.
Je pense que vous avez eu l'occasion de les rencontrer ce mardi matin. Qu'est-ce qui ressort justement de ce qui est à travailler pour le prochain bloc d'année là, que vous dites que vous êtes déjà là-dessus en fait?
Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu aussi des belles choses, puis c'est un peu aussi un moment pour souligner des réussites. Puis justement, le fait que la TROC CDC se déplace à Fermont, que ce soit pour des projets spéciaux comme la commission ou pour rencontrer régulièrement nos membres, c'est apprécié. Donc, ils sentent vraiment qu'ils ont une proximité avec notre regroupement, même s'ils sont un peu excentrés par rapport au reste du territoire. Après ça, c'est peut-être au niveau du lien entre les organismes, entre elles, à travers le territoire. Donc, tu sais, ça, c'est peut-être quelque chose, une piste qui a émergé là, ce matin sur comment qu'on peut améliorer la cohésion et la reconnaissance entre les organismes au-delà du lien avec le regroupement. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant qui a été soulevé ce matin qu'on va explorer aussi.
Puis, avec la campagne électorale qui est en cours présentement, est-ce que c'est un peu l'occasion pour vous de voir les attentes par rapport aux organismes et avec les candidats là, qui sont de plus en plus nombreux? Là, ils n'ont pas fini de toutes les annoncer, mais j'imagine que vous allez présenter une certaine liste éventuellement d'attentes que vous avez pour la région avec les membres de la TROC?
Effectivement, la course commence à se placer. Oui, puis on avait fait l'exercice aussi auparavant. Bien, je vous dirais qu'il y a peut-être sur deux axes principaux. Bon, un qui est vraiment autour du financement des organismes communautaires. On travaille avec nos membres là, sur la campagne de mobilisation le communautaire à bout qui regroupe des milliers d'organismes là, à travers le Québec. Donc, pour ce qui est de ces revendications-là, puis sont quand même très claires et simples, c'est d'augmenter le financement des organismes. Donc, à très court terme, ce que le communautaire à bout demande, c'est un investissement dans un fonds d'urgence là, d'environ 300 millions de dollars pour l'ensemble des groupes. Là, ça serait un petit peu moins de 10 millions pour les organismes de la Côte-Nord. Mais aussi, ben, à plus long terme, là, de travailler des choses comme sur l'indexation annuelle des budgets, qui sont souvent là, pas à la hauteur de l'augmentation des coûts pour les organismes. Puis aussi, ben, le financement, la mission des organismes, donc le financement que les organismes reçoivent pour réaliser leur mission sans devoir déposer pour des projets à court terme puis avoir de la reddition de compte là, additionnelle. Donc, de viser vraiment un 80 % là, du financement des groupes là, à travers ce mode de financement-là.
Puis, rappelez-nous, à quoi sert la table régionale des organismes communautaires, la corporation? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous représentez tous ces organismes membres, en fait, à travers la région?
Bien, à l'origine, puis on a un peu plus de 30 ans maintenant, là, on est né en 1995, mais à l'origine, c'était des organismes communautaires éparpillés un peu sur partout sur le territoire qui sentaient justement le besoin d'avoir un lieu de rencontre, de réflexion, puis d'avoir un organisme qui va les représenter. Donc, on est les interlocuteurs officiels. Bon, ce que je vais appeler maintenant Santé Québec-Côte-Nord, je vais faire ce cheminement-là. Pour ce qui est de la répartition des financements, on sert aussi là, d'accompagnateur pour les organismes, en soutien technique, en formation. Puis on est aussi là, ben, en fait, pour cueillir. Tu sais, les organismes communautaires sont très près de la population, très près des enjeux. Donc, pour un peu cueillir les préoccupations qu'ils vivent au quotidien, que la population vive au quotidien, puis aussi réussir à le transmettre. Donc, pour ce qui est des élections aussi, là, on n'a pas juste réfléchi au financement des organismes. Alors, on a fait un exercice en rencontre régionale au printemps dernier, là, c'était quand même intéressant, où on a créé un parti politique d'organismes qui s'appelait le Bloc Côte-Nord. On se disait, bon, si on fait un parti politique des organismes et on met de l'avant certaines propositions, ben, on aurait quand même des choses là, intéressantes là, sur divers thèmes là, à venir également.
Je trouve ça intéressant comme exercice. Donc, vous avez fait un peu comme si la Côte-Nord avait était un parti politique, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans, en fait?
Effectivement.
Est-ce que vous avez des exemples à donner?
Ben, tout à fait. Puis, il y a des liens avec l'actualité. Bon, d'une part, au niveau de l'économie, on a quand même une réflexion assez critique sur, ben oui, le mode de développement de la région qui est très axé sur l'industrie lourde des ressources naturelles. Mais l'idée ressort aussi, par exemple, au niveau des redevances qui sont versées par les entreprises à Québec puis qui ne reviennent pas toujours en service public dans la région. Est-ce qu'il pourrait avoir un mode de redistribution ben, plus équitable pour les communautés qui sont l'hôte là, de ce type d'industrie-là? Puis je pense que le maire de Fermont en a parlé il n'y a pas longtemps aussi. Donc, on est quand même très d'accord avec ce constat-là. Que la Côte-Nord offre beaucoup puis verse beaucoup de financement en revenus fiscaux à Québec, puis que ça ne revient pas nécessairement dans la région. Il y a une étude socio-économique qui est sortie, je pense, aujourd'hui ou hier.
Au début de la semaine, oui.
Au début de la semaine. Puis là, ça, c'est intéressant quand c'est l'Assemblée des MRC puis les communautés autochtones qui disent aussi ben, qu'il y a un manque à gagner de 1 milliard entre ce qu'on verse à Québec puis ce qui revient. On avait cette intuition-là, le milieu communautaire avait cette intuition-là aussi par rapport à toutes les réalités qu'ils doivent rattraper. Et quand on voit la richesse de la région, donc ça c'en est une au niveau de l'économie. Lutte à la pauvreté aussi, bien ça aussi il y a un lien, bon, avec s'il y a plus d'argent qui revient dans la région, est-ce qu'on ne peut pas penser notamment à intervenir au niveau de la crise de l'habitation puis de l'itinérance, puis de mettre en place des formes de logements communautaires, sociaux. Fermont aussi, c'est une réalité qui vit ses enjeux en logement, puis où en fait on a du mal à avoir du personnel en santé, du personnel dans l'éducation, du personnel dans les CPE. Une grande partie de cette problématique-là, c'est que les personnes qui pourraient même vouloir venir vivre en Côte-Nord sont incapables de trouver un endroit abordable où vivre. Donc, pourquoi pas utiliser un petit peu de redevance en ressources naturelles pour bâtir du logement puis avoir des communautés qui peuvent se tenir. Au niveau de l'éducation aussi, les organismes nous parlent souvent de difficultés à être en contact avec le milieu scolaire puis être en collaboration avec le milieu scolaire. Ce qui est intéressant, c'est que le milieu anglophone, les écoles anglophones ont pour la plupart des intervenants communautaires scolaires, dont leur rôle est d'aller faire des liens avec les organismes, de faire des liens avec la communauté, puis d'essayer d'avoir un dialogue puis une interaction avec les communautés dans lesquelles les écoles sont. On pense qu'il y a quelque chose là qui pourrait être intéressant pour le milieu scolaire. Les organismes communautaires ont souvent des choses intéressantes aussi à apporter dans divers domaines d'intervention dont le milieu scolaire pourrait bénéficier. Puis, en santé, là, je ne vais peut-être pas voler le punch parce qu'on va avoir 16 pistes de solutions qui vont être dévoilées demain, mais clairement, tu sais, il y a quelque chose au niveau de la politique de remboursement, puis c'est d'ailleurs ça qui nous avait fait commencer à se poser des questions sur l'accès aux soins. C'était beaucoup sur cet enjeu-là. Bien, je pense qu'il y a des choses à travailler là, pour faire en sorte que les gens puissent avoir... On dit qu'on a un système de santé gratuit à la grandeur du Québec, mais ce n'est pas toujours vrai là, pour les gens ici.
Il y a des frais là, qui sont encourus, puis on aura l'occasion d'en reparler lors de ce 5 à 7 là, à la Maison d'aide avec l'accès aux soins de santé, la commission populaire dont on parle depuis de si nombreux mois déjà. Merci beaucoup, Sean Bourdage et Mireille Boivin, d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de venir faire un petit coucou en studio. Puis on va probablement se voir à cette présentation. On aura l'occasion de faire un petit post-mortem après le tout. Merci beaucoup. Puis bon séjour à Fermont.
Merci beaucoup.
Merci.
Cette entrevue a été réalisée dans le cadre de l'initiative de journalisme local.